Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Jacques-Yves Molima.
Trois jours de deuil en mémoire de héros national père de l'indépendance Patrice Emery Lumumba a daté de ce 27 juin. Tous les drapeaux congolais sont à Berne. En effet, la relique du premier ministre de la RDC retourne ce lundi à Kinshasa pour les obsèques officielles. Et puis, sur la ligne de front au Nord Kivu, aucun tir signalé ce lundi matin. Chaque parti continue de consolider ses positions, notamment dans les groupements Djomba et Kisigari. Toutefois, des sources coutumières de ces deux groupements signalent des exactions commises par les rebelles du M23 à l'encontre de la population qui cherche à se ravitailler en vivres dans leur village. Enfin, des magistrats, des avocats et des inspecteurs judiciaires en formation de 4 jours, cela se passe à Beni. C'est dans le cadre de la lutte contre le braconnage, l'exploitation et les trafics illicites de la faune et la flore sauvage dans le paysage de Virunga. Pour en parler, nous recevons dans cette édition Maître Olivier Ndolé, responsable de l'organisation Alerte Congolaise pour l'environnement et les droits de l'homme. Mais voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Tous les drapeaux congolais sont à Berne depuis ce lundi 27 juin. En effet, c'est en ces jours que la RDC organise un deuil de 3 jours en mémoire de son héros national, père de l'indépendance, Patrice Emery Lumumba, assassiné depuis 1961. C'est après un pèlerinage funèbre débuté depuis le 16 juin de Bruxelles en Belgique, avec brève escale à Kinshasa pour Lumumbaville, au Naloa, village natal du pionnier des premiers ministres congolais, en passant par Kisangani et Chilantembo dans le Haut-Katanga, où il fut assassiné aux côtés de Maurice Sempolo et Okito. C'est une nouvelle et dernière étape qui commence lundi, Billy Van Lutumba.
Une nouvelle étape avec la présence dès 8h ce matin de tous les officiels congolais à l'aéroport de Ndjili, d'après le livret du programme protocole de la présidence congolaise, avec en tête Félix Tshisekedi, chef de l'État congolais. Après atterrissage de l'avion, la haie d'honneur, le président de la République va se recueillir sur le cercueil du premier ministre, suivi des autres officiels congolais. Ce qui ouvre une nouvelle série d'hommages au Palais du Peuple en ce début d'après-midi avec l'accueil du cercueil par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ici commence l'exposition et un recueillement jusqu'au mardi 28 juin, jour où arrivent à Kinshasa les chefs d'État et des délégations étrangères. Après un bref passage à la résidence familiale le mercredi 29 juin, tous les officiels, y compris les chefs d'État étrangers, vont participer au Palais de la Nation à la cérémonie de dépôt des gerbes des fleurs et des décorations à titre posthume de Maurice Mpolo et Joseph Okito, compagnons de feu Patrice Emery Lumumba. Ce sera bien avant le passage à la primature où tous les premiers ministres honoraires lui rendront aussi hommage. Le point culminant de tout ce programme intervient la journée du 30 juin avec la cérémonie d'inhumation au monument Patrice Emery Lumumba à l'échangeur de Limété, après plusieurs adresses dont celle de la famille et du chef de l'État Félix Tshisekedi.
En effet, déjà hier dimanche, la relique de Patrice Emery Lumumba était au village Chilantembo, le lieu du drame situé à une cinquantaine de kilomètres de Lubumbashi. À cette occasion, François Lumumba, le fils du héros national, a interpellé les jeunes pour la pérennisation des idées de l'illustre disparu, tout en appelant à l'unité pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Jean Gandou pour les détails.
C'est aux environs des 17h heure locale que le cercueil transportant la relique de Lumumba est arrivé à Chilantembo, sous le rythme du groupe folklorique Anamongo. Accueilli par le premier ministre et les membres de famille, le cercueil a été déposé dans le mausolée. Prenant la parole, le gouverneur du Haut-Katanga a indiqué que sa province aurait aimé abriter à jamais le tout premier ministre, symbole de l'unité nationale. Pour Jacques Kiaboula, Lumumba est un esprit, une idéologie. Le premier ministre Samalou Kondé a pour sa part indiqué qu'en ce jour, le peuple congolais est en train de réécrire son histoire, faisant de Chilantembo un lieu de pèlerinage. Quant à François Lumumba, fils de l'illustre disparu, Lumumba est mort trop jeune, ce qui l'a empêché de terminer son programme sur le plan social et surtout sur le plan de l'unité nationale. Voilà pourquoi il a lancé un appel aux jeunes de se liguer pour défendre la nation face à l'agression dont elle est victime dans sa partie est. Le professeur Antoine Chitungu de l'université de Lubumbashi pense que l'événement de ce jour est capital à plus d'un titre.
Aujourd'hui, ceux qu'il avait éliminés en croyant que ce n'était qu'un épisode éphémère de l'histoire du Congo, on n'en parle plus. Tandis que Patrice Lumumba, lui, nous habite et il habite le panthéon de l'universel.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Autre nouvelle, au Nord Kivu, la situation sur la ligne de front entre FRDC et les rebelles du M23 et leurs alliés est restée calme ce week-end, mais imprévisible. Jusque ce lundi dans la matinée, aucun tir n'a été entendu, selon nos sources dans la zone. Chaque parti continue de consolider ses positions, notamment dans les groupements Diomba et Kisigari. Toutefois, des sources coutumières de ces deux groupements signalent des exactions commises par les rebelles du M23 à l'encontre de la population civile qui cherche à se ravitailler en vivres dans leur champ. Ils lancent un SOS auprès du gouvernement congolais afin de voir comment garantir la sécurité des déplacés qui n'ont aucune assistance. Bernardine Diambo.
Des sources coutumières dans les groupements de Kisigari et de Jomba en territoire de Rutshuru où se sont déroulés les derniers affrontements indiquent une accalmie relative observée sur la ligne de front. Toutefois, beaucoup de villages sont restés quasiment vidés de leurs habitants ayant déjà trouvé refuge ailleurs. Dans la zone par exemple, certains déplacés courageux qui tentent de se faufiler pour aller se ravitailler dans leurs champs sont victimes des exactions par les rebelles du M23 et donc des milliers de déplacés dans les agglomérations situées sur la nationale numéro 2, Goma retour au centre et sur l'axe retour au Jomba Bunagana vivent des conditions difficiles, précisent les sources de la société civile de Rutshuru. Il lance un SOS au gouvernement congolais de voir comment garantir la protection des civils en cette période de conflit dans les territoires de Rutshuru. Goma, Bernardine Diambou, Radio Okapi.
Pendant ce temps, la semaine de prières de soutien FRDC au front s'est clôturée le week-end dernier à Goma. C'est sous l'initiative de la coordination urbaine de la société civile de la ville. Les 7 jours ont suffi pour les animateurs de cette structure citoyenne d'implorer la lumière et d'invoquer la paix en RDC. Ces séances de prière étaient accompagnées d'un moment de recueillement pour implorer la miséricorde et la force divine. Des dizaines de personnes se rassemblaient chaque jour de 12h et 17h, heure locale, pendant 5 minutes autour du rond-point appelé Singers, avec des bougies en main et autres insignes du pays. Marion Gaveau, président de la Société civile de Goma, explique au micro de Denise Loukesso.
Nous demandons donc à toute la population d'avoir confiance à Dieu. Nous remettons les armes, nous remettons les planifications, les négociations dans les mains de l'Éternel et nous pensons que nous allons vaincre et gagner l'ennemi sous la bénédiction de Dieu pour que nous puissions commencer à penser au développement de notre pays. Nous avons étalé notre drapeau, nous avons étalé nos bougies pour dire nous voulons la paix, la lumière dans ce pays. Nous avons mis beaucoup de messages de pacification et nous sommes confiants que notre Dieu est en train d'agir. Merci donc à toutes ces personnes qui nous ont accompagnés dans le recueillement pour implorer la paix dans notre pays. Le 30 juin, nous allons appeler tout le monde à prier et à festoyer et à montrer à l'opinion nationale qu'internationale que nous sommes un pays souverain et que personne ne pourra prendre de l'espace congolais pour s'en servir.
De l'autre côté au sud Kivu, l'archevêque de Bukavu lance un appel à sortir du cycle des divisions et des violences de toutes sortes pour entrer dès maintenant dans un monde de communion et de fraternité. Allusion faite à la situation de guerre que connaît actuellement la RDC dans sa partie orientale. Monseigneur François-Xavier Maroy s'est exprimé à travers sa lettre pastorale publiée ce week-end à Bukavu. À la communauté internationale, il demande plus d'équité et de justice envers la République démocratique du Congo et son peuple. Les détails avec Emmanuel et la mesure Kabedi.
Dans ce message intitulé « Heureux les artisans de la paix », l'archevêque de Bukavu parle d'un vent de guerre et d'insécurité qui souffle à nouveau sur la partie est de notre pays. Toujours les mêmes acteurs, les mêmes motifs, avec les mêmes alliés. Curieusement, le soutien extérieur est toujours le même, avec le même schéma décrié par tous et les mêmes visées, dont la soustraction de cette partie du pays au contrôle de notre gouvernement central et peut-être son annexion pure et simple au pays voisin, a-t-il dit. François-Xavier Maroy enchaîne et demande que l'État congolais révisite ses relations avec la communauté internationale, elle qui traite la RDC comme un pays de seconde zone dont la sécurité et le développement comptent peu. À la communauté internationale même, il demande plus d'équité et de justice envers la RDC et son peuple. Que cesse toute ambiguïté de la communauté internationale vis-à-vis de la souveraineté de la RDC qui n'est pas négociable, 62 ans de souveraineté nationale internationale après. Emmanuel Elamijou Akabedi, Bukavu Radio Kapi.
En Ituri, 5 personnes ont perdu la vie dans une attaque des rebelles de ZADF dimanche à Seka, localité située à 4 heures de marche de Biakato dans le territoire de Mambasa. Selon une organisation locale de défense des droits de l'homme, les victimes ont été tuées à la machette et plusieurs maisons incendiées. L'intervention des militaires FARDC a permis de limiter les dégâts, affirme le coordonnateur de cette structure, Dieudonné Boutembezi. Ce matin, ces mêmes rebelles ont attaqué cette fois le village de Ngoubo, toujours dans la même zone. Le bilan de ces affrontements n'est pas encore disponible. Ces informations sont confirmées par l'administrateur du territoire assistant de Mambasa. Toujours en Ituri, plus de 14 000 déplacés sont retournés depuis 3 semaines dans leur village d'origine dans le groupement de Bapulu, territoire d'Irumu. Selon l'ONG CRDH, ces personnes qui avaient fui les exactions des rebelles des ZADF vivent dans des conditions difficiles. Cette organisation de défense des droits humains plaide pour une assistance humanitaire en faveur de ces sinistrés qui sont dépourvus de tout. Clarisse Ziyundula.
C'est le week-end dernier que les dernières vagues des retournés sont arrivées dans le groupement de Bapulu. C'est après avoir passé près de 2 mois dans le centre de Komanda où ils avaient trouvé refuge. Le coordonnateur de la Convention pour le respect des droits humains signale que ces retournés vivent dans des conditions très précaires. Ils passent la nuit à la Belle Étoile car leur abri avait été détruit ou incendié lors des attaques des rebelles des ADF. Ils n'ont pas de vivres ni des médicaments et autres services sociaux de base. Cette ONG salue les efforts de l'armée pour le rétablissement de la paix dans cette zone. Christophe Mouniaderou invite le gouvernement provincial et ses partenaires à apporter de l'aide à ces populations pour leur réinsertion communautaire.
La première des choses, il y avait au moins des maisons qui ont été incendiées et aussi, si par la population a pris fuite, ils ont perdu plusieurs biens. La population est en train de retourner dans la région, mais sans aucune assistance ces derniers temps. C'est pourquoi le gouvernement congolais, avec ses partenaires, doit voir comment venir en aide à cette population.
Signalons que c'est grâce aux opérations militaires que mènent les FARDC et l'armée ougandaise en territoire d'Irumu qu'une accalmie s'observe dans cette partie sud-ouest de ce territoire. Bounia, Clarisse Zindula, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, c'est plus de 5800 familles jugées vulnérables, dont des déplacés de guerre vivant à Kichumbiro, dans le sud du territoire de Lubero, qui reçoivent depuis une semaine de l'assistance alimentaire. Cette assistance provient du Programme alimentaire mondial PAM, dans le cadre du projet de la lutte contre l'insécurité alimentaire, exécuté par l'ONG World Vision. La société civile locale s'est dit satisfaite. Grâce à Mzati.
Au total, 5821 ménages de vulnérables sont ciblés par ces projets d'assistance alimentaire. Il s'agit notamment des familles des déplacés venus du territoire de Beni et de la province de l'Ituri, des familles d'accueil de ces déplacés, des retournés ainsi que d'autres catégories de vulnérabilité. Selon Cléon Kamati, coordonnateur terrain de World Vision qui exécute ces projets, c'est plus de 37 000 individus qui reçoivent chacun une quantité de sel, d'huile végétale, des légumineuses dont les petits pois ainsi que 6 kg de farine de maïs. La société civile de Kichumbiro salue cette action du PAM qui, selon elle, vient soulager ces nombreuses familles qui éprouvent d'énormes difficultés pour s'alimenter. La production agricole locale n'étant plus suffisante au regard de la demande, Auguste Komikisonia, président de la société civile ainsi que les fonctionnaires délégués du gouverneur dans la région, appelle les organisations humanitaires à multiplier ce genre d'actions afin de résorber la crise alimentaire observée dans la zone à la suite de l'activisme des groupes armés. Butembo, grâce à Mzati, Radio Kapi.
Autre nouvelle, au Congo central, le nouveau gouvernement formé par le gouverneur Guy Bandou Ndougidi ne prend pas en compte le ministère de l'Éducation. La synergie des syndicats des enseignants s'est dite mécontente que ce portefeuille stratégique ait été oublié, car l'éducation est importante pour l'avenir de la nation et de la province. Simon Tiloulou, porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants du Congo central, demande au nouveau chef de l'exécutif provincial de prendre en compte le ministère de l'Éducation, puisque légalement, l'enseignement primaire, secondaire et professionnel est à compétence exclusive de la province. On écoute au micro de Nana Purish Mambou.
La synergie des syndicats des enseignants du Congo central a constaté sur du gouvernement qui devra désormais conduire notre chère province. Ce gouvernement a omis le ministère de l'Éducation. Nous leur demandons de réintégrer le ministère de l'Éducation parce que l'article 204 alinéa 13 confère l'enseignement primaire, secondaire secondaires et professionnels à compétences exclusives de la province. Également, l'enseignement, c'est le cheval de bataille du quinquennat du président de la République. Donc nous ne voyons aucune raison que ces ministères très importants pour l'avenir de la nation et de la province ne soient pas repris parmi les ministères qui vont désormais devoir conduire la province. Et d'ailleurs, la situation de l'enseignement à province par rapport à plusieurs décennies continue à connaître un recul. Quoi de plus normal de ne pas inscrire ces ministères comme tels?
Actualité internationale.
Les pays du G7 réunis en sommet en Allemagne vont resserrer encore les taux économiques contre la Russie, en particulier en développant un mécanisme, pour plafonner au niveau mondial le prix du pétrole russe, a dit ce lundi 27 juin un haut responsable de la Maison Blanche. Ils vont par ailleurs de concert continuer à restreindre l'accès de la Russie à des ressources industrielles cruciales, en particulier dans le secteur de la défense que Washington va d'ores et déjà cibler de manière agressive via des sanctions contre de grandes entreprises publiques russes, selon la même source citée par l'AFP.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, ce maître Olivier Ndolé, responsable de l'organisation Alerte Congolaise pour l'environnement et les droits de l'homme. En effet, des magistrats et des avocats et des inspecteurs judiciaires en formation sont donc en formation de 4 jours à Beni. C'est dans le cadre de la lutte contre le braconnage, l'exploitation et le trafic illicite de la faune et la flore sauvage dans le paysage de Virunga. Maître Olivier Ndolé s'entretient ici avec Marc Marofi.
Maître Olivier Ndolé, bonjour.
Bonjour.
Que peut-on retenir de ces symposiums de renforcement des capacités en faveur des magistrats, juges, avocats ainsi qu'inspecteurs judiciaires aujourd'hui?
Oui, il s'agit d'un symposium des acteurs judiciaires qui a regroupé des magistrats civils comme militaires, c'est-à-dire des sièges comme au niveau des parquets et des auditorats, et même les tribunaux, les cours des tribunaux, au niveau de Beni, Butembo et Lubero. On est en train d'échanger par rapport aux défis liés à l'application de la loi sur les services de la protection et la conservation de la faune et flore sauvage autour du parc national de Virunga. Parce que, comme vous le savez, l'exploitation de la faune et flore sauvage constitue en quelque sorte l'agenda politique pour nombreux groupes armés, pour des groupes mafieux au niveau national comme au niveau international. Et c'est ce qui a fait que cette idée d'organiser ce symposium pour qu'ensemble nous puissions ressortir des idées qui vont constituer en quelque sorte un plat prioritaire pour que nous puissions considérer ces crimes graves par rapport à la faune et flore congolaise comme des éléments prioritaires et que la justice puisse amener sa pierre angulaire qui va constituer un moteur non seulement pour la stabilisation de la région, mais aussi pour donner chance à cette vision que la République voudrait avoir, cette vision qui voudrait faire de la République un pays solution par rapport à la justice climatique, mais aussi un pays qui voudrait avoir une économie verte, transparente, dénuée de tout trafic illicite des espèces de la faune et flore sauvage, et qui fleurisse même, si vous voulez, les revenus fiscaux par rapport au budget de l'État.
Est-ce que vous avez eu le temps de faire un petit état des lieux de notre faune et flore sauvage?
Exactement, il y a eu donc des présentations par rapport à l'état des lieux qui ont été faites par les parcs nationaux de Virunga, mais aussi d'autres acteurs, parce que comme vous le savez, il y a des trafics qui se font en pleine ville, et les magistrats et même d'autres services, les inspecteurs judiciaires ont présenté l'état des lieux par rapport au trafic, par exemple, d'ivoire, trafic d'autres spécimens et même la fuite de toutes ces ressources par rapport aux revenus de l'État. Et puis, des crimes graves, notamment, si vous voulez, la pêche illicite, il y a la carbonisation, il y a le braconnage, il y a aussi l'envahissement par rapport au parc national de Virunga. Et il y a eu même, si vous voulez, des défis qui ont été identifiés, dont notamment l'implication de certains acteurs politiques, la corruption qui gangrène toute la chaîne. Et donc, tous ces défis-là ont été brossés et à la suite, il y a eu des pistes, des solutions et même des activités prioritaires qu'il faudra donc envisager pour arriver à atteindre des résultats. Mais aussi, il y a l'aspect, par exemple, aussi des formations des OPJ parmi les besoins qu'il faudra mettre en place pour assurer une bonne justice climatique, une bonne protection de notre faune et flore sauvage et aussi contribuer à la stabilité et aussi à la paix dans la région.
La faune et flore sauvage étant des espaces inviolables, alors qu'on enregistre toujours la présence des groupes armés dans ces espaces, vous pensez par quel mécanisme le gouvernement ainsi que ces institutions peuvent déjà s'activer pour sauver ces espaces?
Bien évidemment, les acteurs judiciaires ont relevé que cela, c'est parmi aussi les grands problèmes, c'est-à-dire l'insécurité et l'instabilité, mais ils ont proposé des pistes et des solutions. D'abord, au niveau judiciaire, ils doivent réprimer tous les criminels qui sont par devant et emportés par les acteurs, c'est-à-dire l'ICCN ou la société civile et pourquoi pas les médias qui dénoncent. Il faut une répression, appliquer la loi comme dans un état de droit. Éviter d'accorder des libertés provisoires, éviter de sanctionner ou d'appliquer des peines dérisoires. S'il y a déjà des crimes qu'on estime, ce sont des crimes graves qui déstabilisent même les institutions du pays. Il appartient par rapport à cette collaboration qui existe déjà avec des forces conjointes où l'ICCN, les Écogardes travaillent avec les militaires. Il faut renforcer cela. Les acteurs ont aussi recommandé à ce que l'on puisse mettre en mouvement les décrets qui instituent les corps pépins qui avaient pour mission de nettoyer et sécuriser les aires protégées contre les groupes armés. Mais la force militaire et la force judiciaire ne suffit pas. Il faut aussi une forte campagne de mobilisation et de sensibilisation des communautés.
Olivier Nolet, merci d'avoir répondu à nos questions.
C'est à nous qui vous remercions.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.